8h23, déjà le temps file et c'est Frédéric Couteau qui nous a rejoint, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
À la une de la presse ce matin, cette question, comment arrêter l'escalade entre Téhéran et Washington?
Comment éviter la guerre, titre carrément Libération, car on est au bord du conflit. Jusqu'à l'année dernière, rappelle le journal, il y avait un certain équilibre avec cet accord nucléaire, au terme duquel l'Iran renonçait à se doter de l'arme atomique en échange d'une levée des sanctions. Contrôlé par des instances internationales crédibles, cet accord avait été respecté par l'Iran jusqu'à une date récente. Arrive Trump, qui déchire en mai 2018 ce traité et prescrit à ses alliés de se ranger derrière lui pour sanctionner l'Iran. S'ensuit une escalade verbale, puis militaire, qui porte à son maximum la tension dans une région déjà déchirée par les conflits. Avec quelles conséquences ? Eh bien, un affaiblissement de la partie modérée du pouvoir iranien, pointe Libération, un cadeau politique offert aux plus fanatiques des mollahs, une montée aux extrêmes dans l'insulte et la dénonciation qui rend de plus en plus difficile la recherche d'un compromis, et désormais donc un risque de guerre dont Trump lui-même envisage froidement l'éclatement en promettant qu'elle sera courte.
Et donc, comment éviter la guerre ? Pour Libération, il y a des solutions.
La première difficulté, et non des moindres, consiste à faire en sorte que les deux États se parlent. Il faut des médiateurs, des intermédiaires, souligne l'ancien ambassadeur de France à Téhéran, François Nicoulot. Les Européens ou les Français doivent mouiller la chemise et prendre des risques, affirme-t-il. Autre priorité, poursuit Libération, éviter l'effondrement de l'accord sur le nucléaire. Si les Européens veulent favoriser une désescalade, affirme un autre expert cité par le journal, ils doivent s'assurer que l'Iran continue de respecter ses engagements et qu'en échange, Téhéran obtienne une bouée de sauvetage économique, mais pour les exportations de pétrole, pierre angulaire de l'économie iranienne, seule la Chine peut intervenir, souligne encore cet expert. La Chine a le poids économique pour résister à la pression des sanctions américaines. Il n'est pas clair si elle a la volonté politique de le faire, alors qu'elle est engagée dans des discussions commerciales très complexes avec les États-Unis.
Et ce qui nous amène donc à l'autre grand conflit mondial du moment, c'est bien sûr la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Le face-à-face Trump-Xi Jinping, titre Le Figaro, le président américain et son homologue chinois se retrouvent samedi au G20 de Tokyo. Au menu, le bras de fer sur le commerce auquel il se livre depuis un an, source d'une vive tension entre les deux pays. Alors, la guerre commerciale jusqu'où ? S'interroge Le Figaro. Depuis plus d'un an, les deux plus grandes puissances économiques de la planète s'affrontent, se taxent, se surtaxent, sans que l'on sache comment cela va se terminer. Les marchés financiers sont sur le qui-vive, prêts à s'envoler ou s'effondrer selon que l'on se dirige vers un vaste accord commercial ou une bataille sans merci. En attendant la fin de l'histoire, il faut reconnaître à Donald Trump, poursuit Le Figaro, le mérite d'oser affronter le géant chinois que l'Occident, dans sa grande naïveté, a trop longtemps laissé prospérer sans contrainte. Toutefois, pointe encore Le Figaro, la campagne de Trump, paradoxalement, démontre aussi les limites du protectionnisme, une arme à double tranchant. Dans un monde économique totalement interdépendant, il crée aussi des désordres qui pourraient revenir aux États-Unis comme un boomerang. Ralentissement de la croissance et des investissements, perturbation des chaînes d'approvisionnement, renchérissement des produits, etc., etc. Pendant que Trump ferraille, ce sont les entreprises américaines elles-mêmes, en particulier de la tech, qui s'inquiètent ouvertement, conclut Le Figaro, de cette escalade dont elles risquent de subir les conséquences.
Une autre guerre, Frédéric, celle que l'on doit mener contre nous-mêmes pour ne pas mourir de chaud dans les prochaines décennies.
Multiplication des canicules, tempêtes, montée des eaux, s'exclame le Parisien. Oui, il va falloir s'y faire. Les dérèglements liés au réchauffement climatique sont de plus en plus spectaculaires et influent désormais sur notre quotidien. Nous n'avons plus le choix, estime le journal. Nous allons devoir nous adapter à ces bouleversements considérables, transformer nos villes, nos transports, nos habitudes de vie, notre économie. C'est inexorable. Cet agenda va s'imposer à tous. Le compte à rebours est malheureusement déjà enclenché.
Alors comment lutter contre la chaleur dans les villes bétonnées ?
Pour Pierre Canet, co-directeur des programmes du WWF, interrogé par Le Parisien, la climatisation n'est qu'un pansement et une mauvaise solution. Il faut créer, dit-il, des forêts urbaines, repenser l'habitat, moins goudronner les rives des fleuves et évidemment revoir les transports. En effet, précise Le Parisien, pour faire éclater les bulles de chaleur dans les villes, il faut du verre, végétalisé pour mieux respirer, il faut de l'air, privilégier la ventilation naturelle des logements, il faut du blanc sur les routes, sur les trottoirs, sur les toits, car le blanc renvoie la chaleur, au contraire de l'asphalte, par exemple, noir, qui l'emmagasine. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les maisons dans les villages grecs sont toutes blanches. Enfin, il faut de l'eau, exemple à Nice, où on a imaginé un système d'humidification des sols au moyen d'une buse d'aspersion intégrée à un trottoir. La chaussée est arrosée en s'évaporant, l'eau a asperger sur la chaussée participe à l'humidification et donc au refroidissement de l'air ambiant.
Et il y a donc urgence, mais malgré tout, la France est à la traîne.
Au rythme actuel, pointe Le Monde, la France n'a plus aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est l'avertissement lancé hier par le HCC, le Haut Conseil pour le Climat. La neutralité carbone que la loi énergie-climat doit inscrire dans le marbre est techniquement réalisable, mais implique une transformation de l'économie et de la société à grande échelle, note le rapport. Or, le rythme de cette transformation est actuellement insuffisant. Les points noirs résident dans les transports et dans le bâtiment, souligne Le Monde, les deux secteurs les plus émetteurs qui cumulent 50% des rejets. Les émissions des transports ont ainsi augmenté de 10% entre 1990 et 2018 et les rejets du bâtiment baissent, mais pas suffisamment. Aujourd'hui, près de la moitié des logements en location du parc privé en France sont des passoires énergétiques.
La revue de presse chaque matin, Frédéric Couteau, retrouvé sur RFI.fr et nos applications mobiles RFI Pure Radio.